plonge au cœur d'un immense échiquier, mais une partie d'échecs dans laquelle nous serions toutes et tous de vulgaires pions, à la merci de deux adversaires redoutables, deux femmes qui ont deux visions radicalement opposées du monde. L'une croit au pouvoir du collectif, tandis que l'autre est convaincue de la force de l'individualisme. Voilà en quelques mots l'idée du nouveau roman de Bernard Werber, qui est notre invité ce matin dans le Mug. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Ben, on est content de vous recevoir ce matin.
Merci de m'avoir invité.
C'est chaque fois un plaisir, hein, auteur évidemment de la trilogie des fourmis il y a un peu plus de 30 ans maintenant, il y a aussi le cycle des anges, puis des dieux, les chats, plus récemment les abeilles aussi dont nous avions parlé l'an passé, et dans ce nouveau roman, La Diagonale des Reines, on revient aux êtres humains, même si en réalité ce sont toujours les êtres humains qui sont au cœur de vos romans depuis le début. Et ici on a deux personnages centraux, deux femmes qu'on découvre enfants. Tout d'abord, l'une s'appelle Nicole, elle vit en Australie, elle est autophobe, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas la solitude, elle ne supporte pas d'être seule avec elle-même. L'autre, Monica, vit à 16 000 km de là, à New York, et elle, c'est l'inverse, elle ne supporte pas le contact avec les autres, elle est anthropophobe. Et le destin va les faire se rencontrer. C'est un roman multicouche, philosophique, politique, historique, avec des éléments de science-fiction, d'espionnage. Quelle a été la porte d'entrée de l'écriture de ce livre ?
Ah, c'est un ami qui n'a pas de bras, pas de jambes, qui est d'un fauteuil handicapé, qui me racontait qu'il a fait une dépression parce qu'il s'est retrouvé à Paris, pris d'un mouvement de foule, et qu'il a eu peur d'être renversé et piétiné par la foule. Et quand il me l'a raconté, je me suis dit, se faire piétiner par la foule, c'est quand même un truc terrible. Et je suis allé voir sur Internet toutes les grandes bousculades où les gens se sont fait piétiner. Je me suis dit, quelle manière étrange de mourir, c'est-à-dire, on sait même pas qui vous tue. Et il y avait aussi le traumatisme du Hazel. Quand j'avais découvert les photos de ce qui s'était passé chez vous, je me suis dit, tu viens pour voir un match de foot et tu meurs écrasé par les autres supporters. Et ça m'a donné envie de faire un roman dans lequel j'ai imaginé que deux femmes utilisent les foules pour pouvoir régler leurs comptes. Ouais. Donc une qui joue avec les pions, donc les foules, et l'autre qui joue elle-même avec sa propre intelligence, qui joue la reine. Donc c'est la reine contre les pions.
Ouais. La foule, c'est effectivement la foule qui est condensée dans un endroit et qui peut y avoir un mouvement de panique et qui peut avoir parfois une contagion de la folie, mais c'est aussi la foule de manière allégorique, il y a une espèce de foule dans la société qui constitue la masse et qui elle aussi peut être
le prise troupeau aveugle.
Oui,
le troupeau aveugle qui avance de plus en plus vers le ravin et que rien ne semble pouvoir arrêter. Il y a la première, celle qui s'appelle Nicole, a un père qui est berger, et elle voit ça, elle voit les moutons qui, guidés par les chiens, vont dans la direction sans réfléchir. Et elle se dit, l'humanité est comme ça, et c'est à moi, en tant qu'une sorte de chien, de les diriger dans la direction que je veux.
Alors elle s'intéresse à ces moutons parce qu'effectivement ces moutons ont une intelligence dans le collectif, l'intelligence d'instinct du troupeau, ce qu'on appelle l'égrégore.
Voilà.
D'ailleurs,
ça donnait le prénom Georges, et les chants grégoriens. Donc dans le chant grégorien, tous les gens qui chantent en même temps forment une sorte de bulle dans laquelle il y a la voix de tous et la voix d'aucun, précisément. Et d'ailleurs, l'un des avantages de la foule, c'est que quand la foule chante, elle chante toujours juste, parce que tout le monde se compense entre ceux qui vont trop vite, ceux qui vont trop lentement, ceux qui sont trop aigus, ceux qui sont trop graves. Et au final, tout le monde chante bien, à la bonne vitesse, avec les bonnes paroles.
Ouais, c'est fascinant, évidemment.
La puissance de la foule.
Et assez mystérieux aussi. Vous avez peut-être vu ces images, il y a quelques semaines en Chine, de ce troupeau de moutons qui a tourné en rond pendant une douzaine de jours. Bon, finalement, visiblement, certains scientifiques l'ont expliqué qu'il s'agissait d'une situation de stress lié à la captivité des moutons, ou ça...
Faire un cercle comme ça aussi parfait, ça me semble un peu surprenant de mettre ça sur le compte du stress. Non, il y a un côté magique, mais j'ai pas d'explication.
C'est
fascinant.
Ça a dû vous fasciner, ça, oui.
Oui. Mais je pense que les moutons sont pas des animaux bêtes. Mmh. Ce qu'il y a, c'est qu'on les met ensemble et on les force. Peut-être que les premiers moutons vivaient de manière indépendante. C'est l'homme qui les a réunis pour avoir des élevages, comme on a réuni le blé pour avoir des champs de blé. C'est nous qui créons du collectif, là où les animaux serait peut-être individuel. D'ailleurs, les attaques de champs de sauterelles, les sauterelles étaient indépendantes, c'est parce qu'on a fait des champs de blé que les sauterelles se sont répandues, ça fait des nuages de sauterelles.
Bon, alors voilà, évidemment, il y a des choses... Et y a comme toujours, hein, vous utilisez votre encyclopédie du savoir relatif absolu, oui, où vous glissez toute une série d'anecdotes ou de faits scientifiques, historiques, tout au long du livre. Alors là, on a beaucoup parlé de l'un des deux personnages et de son univers, en tout cas, c'est Nicole. De l'autre côté, il y a Monica, qui, elle est ultra-individualiste, elle est anthropophobe, hein, donc elle va s'émanciper, notamment dans la méditation, elle supporte difficilement la compagnie d'autres personnes. Sa vie sentimentale, elle n'idéalise pas non plus le principe du couple. Et on a le sentiment que vous poussez quelque part un petit peu loin les curseurs du processus d'individualisation qui est en cours dans notre société aujourd'hui, en réalité.
Oui, c'est sûr que Monica est une sorte d'extrême dans le concept de « tout seul, j'y arriverai mieux » et « fichez-moi la paix ». Mais je crois qu'on a tous ces tendances, je ne sais pas si c'est votre cas, et on a un moment où on se dit finalement, s'il me laisse faire seul, je vais y arriver, et il y a un moment où le groupe nous porte et nous fait réussir. En tout cas, je suis un peu Monica et un peu Nicole, et c'est aussi cette étrangeté de mon propre esprit que j'ai voulu mettre dans le roman. En tant qu'écrivain, c'est un métier solitaire, j'ai besoin tout le temps d'être seul, puis je ne supporte pas la vie en entreprise, avoir des chefs, des collègues, tous ces gens autour qui créent une sorte de tension, j'y arrive très très mal. Et à côté de ça, je vais travailler au café parce que j'ai besoin de voir des gens. Je ne crois pas à l'écrivain dans sa tour d'ivoire qui comprend le monde enfermé dans une pièce. Donc je suis un peu des deux, et c'est pour ça que chacune jouant, il y a un chapitre blanc, un chapitre noir, un chapitre de chaque camp, et chaque fois je mets dans la peau de mon héroïne et j'essaie de réfléchir comme elle en me disant c'est elle qui a le meilleur raisonnement. Mais après la réponse va dire le contraire.
Alors on va découvrir que nos deux personnages centraux, Nicole et Monica, sont deux intelligences supérieures, on le comprend d'ailleurs assez rapidement. Elles vont très tôt se passionnée aussi pour le jeu d'échecs. Et c'est pas juste un jeu, les échecs, c'est une façon de réfléchir, c'est même peut-être une philosophie, peut-être.
Ah, c'est une grille de lecture du monde. Et moi, mon père m'a appris à jouer aux échecs à 6 ans, et il m'a appris à regarder les actualités. Et ça allait en même temps, et j'ai toujours regardé les actualités en me disant, tiens, c'est des personnes qui sont en train de placer leurs pièces, de se manger des pièces, d'essayer de placer des tours, des pions pour pouvoir coincer l'autre. Et ça m'a jamais quitté. Et l'analyse, quand les gens même me racontent leurs problèmes de couple, par exemple, je me dis, bon, ben voilà, c'est la partie qui est en train de se jouer. C'est pas il y en a un qui a raison, un qui a tort. C'est chacun avance à sa manière ses pièces et regarde ce qui va se passer. Je crois que à cette phrase, tout est stratégie. Ouais. Tout est stratégie.
C'est terrible comme vision du monde, parce que ça veut dire qu'au final, il y a un gagnant, il y a un perdant.
Ah ben dans la diagonale des rênes, chaque partie a abouti à un résultat différent. Il y a une partie, oui, oui. Au début, il y en a une qui gagne, après c'est l'autre qui gagne, et après il y a la globalité de l'ensemble du projet. Il y a un gagnant, il y a un perdant. J'ai envie de dire, ça dépend dans quel domaine. Il y en a parfois qui gagnent sur un domaine et l'autre gagne sur... Il peut y avoir deux gagnants. Ouais. Moi, j'espère qu'il n'y aura que des gagnants.
Alors, ça, c'est intéressant. On va y venir parce que ce personnage, effectivement, Nicole, c'est un peu ce que vous expliquez. Elle tente de comprendre le monde sur une espèce de logique mathématique, un petit peu comme un grand échiquier où deux adversaires s'affrontent. Et effectivement, en fait, puisque l'histoire démarre dans les années 70, on l'a pas dit, elle couvre plusieurs décennies. Et on est effectivement dans un fonctionnement et une vision du monde où deux blocs s'affrontent. Hein, si on pense au bloc Est-Ouest, il y a une vraie, on peut considérer qu'il y a une vraie logique d'échiquier là derrière.
Oui, qui était d'ailleurs bien matérialisée par le choc Bobby Fischer et Spassky. C'est-à-dire tout d'un coup, on a dit les deux présidents, le président russe et le président, enfin le secrétaire du Parti communiste et le président américain suivent la partie d'échecs parce qu'ils considèrent que ça va montrer que leur civilisation est supérieure à l'autre. Donc il y a eu ce moment où même les gens qui jouaient pas aux échecs ont suivi, je crois que c'était en 78, où ils ont suivi ce match qui se passait à Helsinki, et ça a pris une proportion énorme, surtout que les deux personnages étaient avec des caractères très très forts. Et ça s'est reproduit après avec le match Korchnoï-Karpov, dans lequel il y avait vraiment la philosophie de l'Ouest contre la philosophie de l'Est, le KGB contre la CIA. Il y a eu vraiment cette confrontation, avec en plus des magiciens, des vaudous qui sont venus dans la partie se mêler de ça, des gens qui envoyaient des ondes, des machines qui ont été cachées. Et ça, c'est dans la réalité. Donc, il fallait, moi, en tant que romancier, que je suive juste ce courant, montrer comment, à travers les échecs, des pays règlent leur compte. Mais Poutine est très joueur d'échecs. Ouais. Et j'ai joué contre Karpov. Karpov dirigeait réellement les services secrets du KGB. Donc les échecs, c'est pas juste un thème de roman. C'est réellement un outil de travail pour les diplomates.
Ouais. Et effectivement, bah, vous disiez, bah, on peut aussi voir les choses comme sans qu'il y ait nécessairement un perdant et un gagnant. Il peut y avoir deux gagnants.
Ou deux perdants.
Oui, ou deux perdants. Mais dans vos livres, et alors que dans beaucoup de livres de science-fiction, on présente une réalité et un monde très très sombre, très inquiétant, bah, chez vous, il y a des notes d'espoir, peut-être même souvent des happy ends. Vous êtes plutôt un esprit optimiste alors, finalement.
Je suis pessimiste sur le court terme, parce que quand une connerie est à faire, elle est faite. Et optimiste sur le long terme, parce qu'il y a toujours des gens qui finissent par, malgré la connerie ambiante, à trouver des chemins pour faire évoluer le monde. Et si je regarde bien ici et maintenant, on vit quand même mieux que nos parents, et encore mieux que nos grands-parents, et encore mieux que tous nos ancêtres. Donc on est là en train d'avoir peur du réchauffement climatique, de la guerre en Ukraine, du Covid. Mais finalement, regardez, là, on est en train de parler roman. Il y a la radio qui permet de diffuser des idées partout. Il y a des débats, il y a une spiritualité, il y a des gens qui font la méditation. En fait, le bon et le mauvais se développent aussi vite, mais le bon se développe vraiment bien. Donc, je suis optimiste sur le long terme. Je crois que les gentils vont gagner au final, mais ils vont s'en prendre quand même plein la gueule avant de gagner.
Ouais.
Et alors, c'est du roman.
Et pourquoi écrire alors ce type de roman? Est-ce que c'est une façon de se projeter, de se préparer à l'avenir?
Oui, je crois que nous, les auteurs de science-fiction, on a un devoir de vigie. C'est comme si, ben, un bateau, il faut monter en haut du mât, regarder très très loin à l'horizon et dire, il me semble que je vois ce genre d'île, ou il me semble que je vois une baleine. Mais en tout cas, dire aux autres, si on va dans cette direction, je crois qu'on va rencontrer ce genre de problème ou ce genre de possibilité. Et on a l'avantage par rapport aux politiciens, aux économistes ou aux financiers, c'est que nous, on n'a pas un devoir de ne pas nous tromper. On a le droit de se tromper. On peut décrire un monde affreux dans le futur. S'il n'arrive pas, on ne nous en voudra pas. Mais on peut aussi décrire un monde parfait dans le futur, et s'il n'arrive pas, on ne nous en voudra pas non plus. On est là pour ouvrir les imaginaires et aussi donner à réfléchir.
Mais regardez, c'est une façon de vous dédouaner, hein, ça, Bernard Werber. Mais c'était de la fiction, hein, ne fallait pas croire ce que je disais.
mais il y a quand même un objectif de, comment dire, de donner des idées aux gens et des idées plutôt positives. Si on regarde quand même Jules Verne, quand il imagine le voyage de la Terre à la Lune, il a inspiré quelques années plus tard le même réel voyage. Oui. Alors j'essaie de proposer des idées pour que peut-être des ingénieurs ou des politiciens les reprennent et que ça fasse avancer le monde, mais dans la bonne direction. Ouais. Pas dans la noirceur, plutôt dans la lumière.
Ouais. Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que finalement, dans tous vos romans, malgré les différents prismes que vous avez utilisés, c'est l'humain, c'est l'organisation de la société qui vous intéresse depuis le tout début. Et quand on replonge à vos tout débuts, on pense aux fourmis, évidemment, il y a un peu plus de 30 ans maintenant, hein, c'est en 1991, qui a été un succès phénoménal. Et on se dit que ça a quand même été l'élément fondamental de votre travail depuis toujours.
Exact.
D'explorer l'humain, son organisation de société, etc. Que ça a été la première pierre de la suite.
Oui, en fait, dans les fourmis, il y avait déjà pratiquement tous les autres romans qui ont suivi. Seulement, il fallait que je le développe, que j'explique. Par exemple, dans les fourmis, il y avait cette notion de collectiviste que je développe dans La Diagonale des Reines. À savoir que le collectif est plus fort que l'individu. Et les fourmis, qui sont une espèce qui existe sur Terre depuis 120 millions d'années, alors que l'homme n'est sur Terre que depuis 3 millions d'années, ont survécu à toutes les épreuves. Ce qui veut dire que l'homme a intérêt à réfléchir à une manière de vivre en collectif et fonctionner en équipe pour pouvoir lui aussi survivre, comme les fourmis. Mais il y avait tout, en effet, vous aviez raison. C'est dans les fourmis, en 91 déjà.
Eh oui, 91, effectivement. Merci beaucoup.